s'ajouter des mots aux mots, sans mots, les pas aux pas, un à un. Lueur lisière de la navette, plus qu'un pas s'éteigne, demi-tour, remiroite, halte plutôt, loin des deux, chez soi, sans soi, ni eux.
Cette entrée, c'est donc une sorte de couloir, un vestibule très allongé, qui a deux caractéristiques. D'une part, à droite, il y a un dispositif sonore qui permet d'entendre des textes de Beckett, des poèmes, des mirlitonnades qui sont lus en français et en anglais par Michael Lonsdale. Évidemment, c'est une exposition qu'on souhaitait être bilingue pour respecter autant que faire se peut la double qualité linguistique de Beckett. Donc les poèmes sont lus dans les deux langues.
For the dog. It was not exactly incendiary, for she could still hear the buzzings in the ears, and a ray of light came and went.
Et au fond, alors on a cette, sur un écran, cette grande bouche lumineuse de Pamois. Ici, c'est dans la version anglaise Not I. Ce dispositif scénique qui avait été voulu par Beckett et qui est d'une radicalité incroyable, il soumet une comédienne à l'obligation d'être debout dans le noir avec la tête qui est tenue par une sorte de harnais, chose qu'on ne voit pas bien sûr, avec juste la bouche éclairée et la bouche disant un texte à toute vitesse. C'est Madeleine Renaud qui a joué cette pièce, pas moi, en français. Donc il faut imaginer ce que c'est pour une comédienne de faire ça et pour des spectateurs d'être au théâtre et d'avoir simplement une petite bouche éclairée comme ça sur scène. On a voulu cette image parce que non seulement elle est frappante, mais elle permet de comprendre ensuite à quel point un certain nombre d'artistes vidéastes ont pu être influencés par cette image, l'ont reprise, l'ont traitée. Et c'est une des choses que nous avons découvertes en préparant cette exposition et que nous avons essayé de mettre en lumière. Autant Beckett est une figure intimidante pour les écrivains, c'est-à-dire je ne connais pas un écrivain français en tout cas qui ose dire je suis beckettien ou se réclamer de lui. C'est un surmoi qui est considérable. Les artistes, notamment les vidéastes, n'ont absolument pas la même timidité, les mêmes réticences, et donc ils s'emparent des images de Beckett et ils les utilisent, que ce soit Tony Ursler, ou Stan Douglas ou Bruce Nauman, ils ont utilisé ces films.
Dans la section biographique, c'est ça ?
Voilà. Beckett disait dans un entretien avec sa biographe anglaise, « Oui, j'ai pas de renseignements à donner pour ce truc qu'on appelle ma vie. »
Il parlait rarement de lui-même ?
Il voulait pas. Il voulait pas. Beckett, c'est quelqu'un qui ne s'est quand même... s'est jamais laissé... Il n'y a pas d'entretien avec Beckett, pratiquement pas. Il ne donnait pas d'interview, il ne se laissait pas enregistrer, il ne se laissait pas filmer. Bon... Donc, bien sûr, on a toutes sortes de renseignements sur lui. Il y a eu des sommes biographiques très complètes, mais la réticence et le refus, a priori.
Tout su, tout blanc, corps nu, blanc, un mètre, jambes collées comme cousues. Lumière, chaleur, sol blanc, un mètre carré, jamais vu. Mur blanc, un mètre sur deux, plafond blanc, un mètre carré, jamais vu. Corps nu, blanc, fixe, seuls les yeux à peine. Traces fouillis, gris pâle, presque blanc sur blanc. mains pendues ouvertes, creux, face, pied, blanc, talon, joint, angle droit. Lumière, chaleur, face blanche, rayonnante. Corps nu, blanc, fixe, hop, fixe ailleurs.
Il naît en 1906 à Dublin, d'une famille très bourgeoise, protestante, ce qui compte quand même dans une Irlande très catholique. Famille compliquée, il a eu toute sa vie des rapports très difficiles avec sa mère, enfin jusqu'à ce qu'elle meure. Il était très attaché à son père. Études brillantes à Trinity College. Ensuite, il est envoyé en France comme lecteur d'anglais à Normale supérieure. Et là, pendant cette année-là, il rencontre Joyce, et il devient un des proches de Joyce, qui était à l'époque à Paris. Et donc, les premiers livres qu'il écrit, ou les premiers poèmes, sont des poèmes et des livres totalement érudits, envahis par une érudition fantastique, un peu à la façon de Joyce. Il mettra longtemps à se libérer de ce modèle, évidemment, immense. Tombé comme ça dans le groupe de Joyce dans ces années-là à Paris, c'était pas rien. Ensuite, il y a toute une période où il retourne en Irlande, il essaye d'enseigner, ça ne marche pas, année difficile, sans argent, sans travail, sans raison sociale, il commence à écrire, ça ne marche pas. Il revient en France, il rencontre une femme avec laquelle il vivra toute sa vie, Suzanne. Il entre dans la résistance, c'est la guerre. Le réseau est démantelé. Il se réfugie dans le Vaucluse, à Roussillon, avec elle, où il passe caché la fin de la guerre. À la libération, il est volontaire de la Croix-Rouge irlandaise à Saint-Lô. Donc, on a un texte de lui sur la ville en ruine. Et puis voilà, il choisit le français, il reste en France, il écrit, il rencontre Jérôme Lindon. Et il y a cette longue histoire de publication et en même temps d'hommes hyper célèbres et hyper retranchés.
Bing, murmure, bing, silence. Bouche comme cousu, fil blanc invisible. Bing.
C'est comme si changer de langue le libérait, avait libéré quelque chose. Et avait peut-être simplifié pour lui la façon d'écrire. Les livres écrits. Alors, ce passage ne s'est pas fait sans retour, puisque Beckett écrit en français. Pour certains textes, il revient à l'anglais. Il retourne au français, mais enfin bon.
Et il est retraduit dans les deux langues.
Voilà, c'est ça. Mais il a choisi quand même de faire œuvre en français. Son éditeur, c'était Jérôme Lindon. Jérôme Lindon a été son exécuteur littéraire. Donc la France a été un choix. Et il est sûr qu'il s'est senti, il y a eu comme un allègement. Et la capacité de travailler la langue... Jusqu'à l'épure, de la simplifier, de l'économiser, chose qu'il aurait peut-être fait sans doute en anglais, mais avec peut-être avec un travail beaucoup plus lent, beaucoup plus long.
Scattered ruins, same grey as the sand, ash grey, true refuge. Four square, all lice, sheer vice, blank plains, all gone from mind. Never was but grey air, timeless, no sound, figment, the passing hour. No sound, no stir, ash grey sky, mirrored earth, mirrored sky. Never was but this changelessness, dream the passing hour.
Prière. Quand tout fait défaut, quand je pense aux âmes, aux tourments, aux vrais tourments, aux vraies âmes qui n'y ont jamais droit, au sommeil, on parle du sommeil, j'ai prié une fois pour elle, d'après une vieille vue, elle a jauni. En fait, l'idée pour cette première salle, qui est une salle autour de des fictions de Beckett, de ses situations romanesques, de ses personnages, etc., on l'a baptisé Res parce qu'on voulait montrer que la démarche de Beckett est une démarche qui procède par réduction. L'intrigue romanesque des débuts, par exemple, avec Murphy ou Watt, va s'épurant, se réduisant justement jusqu'à ce personnage qui rampe dans la boue de commencer. Les agitations, les gestes finissent par l'immobilité. La voix s'éteint, finit par le silence. Le corps qui est, un corps entier dans les premiers textes, c'est fini par n'être plus qu'un mognon, un bout de membre, etc. Il va vers le dépouillement, il va vers le... Je ne dirais pas le démembrement parce que ce serait faux, mais vers des morceaux. Les textes de la fin sont des textes qui ont l'air d'être des fragments, hein, qui n'ont pas l'espèce d'ampleur constituée des romans du début. Encore moi, toujours et partout dans la lumière, âge indéterminé, vu de dos à genoux, les fesses en l'air au sommet d'un tas d'ordures vêtues d'un sac au fond crevé pour le passage de la tête entre les dents. Voilà, c'est le halètement d'un personnage qui rampe et qui reprend sa respiration en rampant. Évidemment, c'est terrible. Puis on s'aperçoit que pour s'aider à ramper, il plante un ouvre-boîte dans le derrière d'un sorte de personnage indéterminé qui est devant lui. Bon, et donc là, on est dans le burlesque absolu.
C'est drôle.
Vue de face, la fille est moins vilaine. Ce n'est pas elle qui m'intéresse. Moi, pâle cheveux en brosse, grosse face rouge avec boutons, ventre débordant, braguette béante, jambes cagneuses en fuseau écartées pour plus d'assises, fléchissant aux genoux, pieds ouverts, 135 degrés minimum, demi-sourire béat à l'horizon postérieur, figure de la vie qui se lève. Et nous revoilà qui mangeons les sandwichs à bouchées alternées, chacun le sien, en échangeant des mots doux. Ma chérie, je mords, elle avale. Mon chéri, elle mord, j'avale. Nous ne roucoulons pas encore la bouche pleine. Mon amour, je mords, elle avale. Mon trésor, elle mord, j'avale. Bref, brouillard. Et nous revoilà qui nous éloignons de nouveau à travers champs, la main dans la main, les bras se balançant, la tête haute vers les sommets de plus en plus petits. Je ne vois plus le chien. Je ne nous vois plus. La scène est débarrassée.
Il y a une dimension tragique et une dimension comique. Hein. Ça a été la grande difficulté de l'exposition, ça a été de laisser quand même percevoir que Beckett est un auteur comique aussi, et qui a des éléments de drôlerie, et que les textes les plus dramatiquement tendus, c'est glauque, si on veut, c'est terrible, c'est sinistre, et en même temps, c'est d'une drôlerie absolue.
Secret de voleur, crucifié en même temps que le sauveur. On dit
quoi?
Que le sauveur, de voleur. On dit que l'un fut sauvé et l'autre damné.
Sauvé de quoi?
De l'enfer.
Je m'en vais.
Non, et cependant, hein, comment se fait-il? Je t'ennuie pas, j'espère.
Non, j'écoute pas.
Comment se fait-il que des quatre évangélistes, un seul présente les faits de cette façon? Hein, ils étaient cependant là tous les quatre, enfin pas loin, et un seul parle d'un larron de sauvé. Eh ben voyons Gogo, il faut me renvoyer la balle de temps en temps.
Hors crâne, seul dedans.
Hors crâne.
Quelque part, quelquefois.
Seul dedans.
Comme quelque chose.
Quelque part.
Crâne, abri dernier, pris dans le dehors. Tel boca dans la glace.
Comme quelque chose. Crâne, abri dernier.
Qu'est-ce que ça signifie, le crâne, chez Beckett ?
Pris dans le dehors.
Je crois que ça signifie tout. Alors évidemment, on pourrait dire que dans son versant noir, c'est la vanité, c'est la mélancolie, c'est
la
boîte crânienne, c'est la mort. Et dans un autre sens, c'est une image de la pensée ou de la concentration de l'homme. Et donc on a montré dans cette pièce un certain nombre de crânes. Il y en a un d'Alechinski par exemple. C'est un dessin, c'est une gouache, c'est une encre avec une bordure à l'aquarelle qui représente, on pourrait dire, un crâne. Il est titré Noir clair. Noir clair, c'est une expression de Beckett. Et bon, c'est comme une espèce de vision dans les ténèbres avec une décoration justement très gaie autour, comme une espèce de petite constellation de taches rouges. Voilà. Et ça, on peut dire qu'il y a l'ambivalence de Beckett qui est entre le tragique et on pourrait dire presque le burlesque, parce que c'est presque un masque de clown.
Allons-nous-en.
On ne peut pas.
Pourquoi ?
On attend Godot.
C'est vrai. Tu es sûr que c'est ici ?
Quoi ?
Qu'il faut attendre.
Il a dit devant, là. Tu en vois d'autres ?
Qu'est-ce que c'est ?
On dirait un saule.
Où sont les feuilles ?
Il doit être mort.
Fini les pleurs.
À moins que ce ne soit pas la saison.
Et ce serait pas plutôt un arbrisseau ?
Un arbuste ?
Un arbrisseau.
Qu'est-ce que tu veux insinuer, qu'on s'est trompé d'endroit ?
Il devrait être là.
Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait.
Et s'il ne vient pas ?
Nous reviendrons demain.
Et puis après-demain. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vienne.
Impitoyable.
Nous sommes déjà venus hier.
Oh non, là tu te gourres.
Qu'est-ce que nous avons fait hier ?
Ce que nous avons fait hier ?
Oui.
Ma foi, pour jeter le doute, à toi le pompon.
Il écrit en attendant Godot, qui va être absolument déterminant pour lui, puisque tout à coup, il est en pleine lumière, il devient célèbre très vite. Il écrit « Oh les beaux jours », fin de partie, les dramaticules, etc. Et sa notoriété commence avec le théâtre. Et on peut dire que largement, aujourd'hui, quand on dit Beckett, les gens pensent, en attendant Godot, ils ne connaissent que ça.
Qui est Godot ?
Godot ? Vous m'avez pris pour Godot ?
Oh non, monsieur, pas un seul instant.
Qui est-ce ?
C'est une connaissance.
Non !
Voyons, on le connaît à peine.
Évidemment.
On ne le connaît pas très bien, mais tout de même...
Pour ma part, je ne le reconnaîtrai même pas. Vous m'avez pris pour lui, c'est-à-dire... L'obscurité, la fatigue, la faiblesse, l'attente. J'avoue, j'ai cru un instant.
Ne l'écoutez pas, monsieur, ne l'écoutez pas.
L'attente ?
Il faut imaginer les spectateurs qui vont au théâtre de Babylone et qui voient sur une scène des personnages qui attendent quelque chose qui ne se produit pas. Hein ? C'est-à-dire, on est dans la non-action, dans l'absence d'intrigue, même s'il y a encore, disons, un semblant de... Il y a des événements, c'est-à-dire qu'il y a l'arrivée, par exemple, du couple du maître et de l'esclave...
Lucky
et Pozzo, qui vont créer une espèce de diversion, etc. Mais il ne se passe rien, on attend. Donc, pour les spectateurs, ça paraissait absurde. Ça paraissait, alors de là l'idée de théâtre de l'absurde, etc. Il y en avait qui trouvaient ça excessivement drôle, comme on peut être frappé aujourd'hui par le côté extrêmement drôle et burlesque d'En attendant Godot, qui est voulu par Beckett, hein, jusqu'à la scène où il y a le pantalon qui tombe, etc. Mais bon, les gens étaient plutôt saisis par l'idée d'un nihilisme, d'un... Bon. Et en plus, il y a chez Beckett cette volonté d'une absence de décor, Donc le gris, la ruine, le grabat, l'arbre, mais tellement schématisé que, voilà, un lieu dit la planche, un arbre et rien d'autre, quoi. Donc une conception très dépouillée, très radicale du théâtre, et bien sûr, on imagine à côté de je sais pas quoi, des pièces d'Anouilh, de Giraudoux, etc., la grande rupture.
La route est à tout le monde. C'est ce qu'on se disait. C'est une honte, mais c'est ainsi. On n'y peut rien. Ne parlons plus de ça!
Finalement, c'est un artiste complètement polyvalent. Il a été romancier, il a écrit des pièces de théâtre. Il a fait
de théâtre,
un film,
metteur en scène, cinéaste, des pièces radiophoniques, tout à fait. Et puis ce film célèbre, culte et extrêmement étrange, qui est Film. Alors, l'idée, c'est une idée assez philosophique au départ, qui vient de cette philosophie anglaise de Berkeley, 18e siècle, et c'est est percipi, être, c'est être perçu. Donc au fond, on pourrait dire que le personnage essaye de ne pas exister ou d'aller vers son propre anéantissement en supprimant tout ce qui peut le regarder. Donc il se cache dans la rue, on le voit toujours de dos, sauf dans la dernière image. Là, il est dans une chambre, il y a des animaux, et l'œil des animaux le gêne, donc il va couvrir la cage, il va couvrir le bocal de poisson rouge, il va faire sortir le chien et le chat, il va voiler le miroir. Donc il essaye, il y a une sorte de lutte contre le fait d'être vu. Et à la fin, évidemment, il se retrouve face à la caméra qu'il regarde. Il n'arrive pas... C'est un film assez suicidaire, au fond. Hein. Vouloir disparaître. N'être rien.
Est-ce que Buster Keaton avait compris ce que...
Non. Beckett... Non, il semblerait que la rencontre n'ait pas été ce qu'on peut rêver qu'il ait été. C'est-à-dire, Buster Keaton, je crois, bon, s'est plié à tout ça, mais il n'était pas impliqué véritablement.
Ses rêves, puis à pas lents, sans retour d'eux.
Situation présente. Cette chambre semble être à moi. Je ne m'explique pas autrement qu'on m'y laisse, depuis le temps. À moins qu'une puissance quelconque le veuille, cela est peu vraisemblable. Pourquoi les puissances auraient-elles changé à mon égard? Il vaut mieux adopter l'explication la plus simple, même si elle l'est peu, même si elle n'explique pas grand-chose. La grande clarté n'est pas nécessaire. Une faible lumière permet de vivre dans l'étrange. Une petite lumière fidèle.
L'innommable.
Avec
Dieu barré. Alors, c'est très compliqué de choisir d'ouvrir les manuscrits de Beckett à une page plutôt qu'à une autre. L'écriture est peu lisible. Elle est très inclinée. Elle est difficile à déchiffrer. En même temps, quand on se penche, quand on essaye, pourquoi me suis-je fait représenter parmi les hommes dans la lumière? Bon, voilà, on le lit. Donc ça, c'est l'innommable. Et évidemment, quand on a commencé à feuilleter ça, on s'est dit, ça c'est trop beau, ce Dieu sur la page de droite qui est blanche, donc il écrit sur la gauche, en tout cas dans ce cahier-là, c'est pas toujours le cas. Et à droite, entouré d'un cercle, Dieu, et qui est barré, voilà, on s'est dit, c'est bien lui en dire le plus avec le moins. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, dans le cours de son texte, il pense à parler de Dieu? Il le fait, hein. il le fait dans certains textes, et puis finalement cette idée, il y renonce, il le barre, ou est-ce qu'il est en train, tout à fait marginalement, dans la marge, de se dire que, bon, Dieu, question évacuée, l'un ou l'autre est possible.
God! First thought was, oh, long after, sudden flash, she was being punished for her sins, a number of which then further proven through me, flashed through her mind, one after another, then dismissed as foolish, oh, long after, this thought dismissed, and she suddenly realized, gradually realized, she was not suffering.
On a voulu montrer ce mouvement qui est propre à l'œuvre de Beckett, qui va vers l'économie, l'abstraction, la monochromie, on pourrait dire l'assombrissement aussi, ou le dépérissement, ou l'extinction de la voix, ou le ralentissement de toute chose. Alors, dans ces textes, bien sûr, les textes de la fin, comme Soubresaut, Cap aux Pires, qui sont des textes d'exténuation, il n'y a plus rien à dire, ça recommence encore, mais il n'y a plus rien à dire. Cette espèce d'épuisement de la parole.
L'exposition se termine
sur la voix de Beckett. Donc, petite archive. Trois minutes, d'une origine insituable. Et c'est Beckett qui lit, c'est comme une voix intérieure, Beckett lit Lessness, sans. Et en même temps qu'il le lit, il scande sa lecture en frappant des coups sur la table. Et ça, je veux dire que c'est extraordinaire. C'est comme si là, on était au plus proche de Beckett, parce que on peut bien dire qu'une exposition tourne autour de quelqu'un sans jamais arriver à le toucher. Et là, on est... Enfin, je ne dirais pas que c'est une relique, parce que c'est quelque chose qui est très vivant, mais c'est comme l'âme de Beckett, hein. C'est comme son esprit, c'est comme... on avait des manuscrits, mais des manuscrits un peu difficiles à lire. On avait des photos, bon voilà, mais on n'avait pas de... d'une certaine façon, il nous échappait, il était très inaccessible. Et là, c'est un petit moment magique où on a quelque chose comme un contact.
He will curse God again, as in the blessed days, face to the open sky and the passing deluge. Little body, grey face, features slish and little holes, too pale blue. Blank plains, sheer white, calm eye, light of reason, all gone from mind.